Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur Esprit Occitanie. Je suis Kelly et je vais vous présenter l'émission Vers de Terre, l'émission pour les auditeurs et auditrices Vers d'Orage, l'émission des étudiants et étudiantes du Master Politique Environnementale et Pratique Sociale. À travers cet épisode de 30 minutes, nous nous intéresserons au monde agricole qui vit aujourd'hui une crise économique, sociale, mais aussi environnementale. Les agriculteurs et agricultrices souffrent d'une pression du profit et d'une pression morale avec des conditions de vie précaires. Ils sont confrontés à une concurrence accrue, une course à la rentabilité, des difficultés économiques et à la solitude. Ce qui fait que le taux de suicide chez les agriculteurs et agricultrices sont très élevés. Ainsi, nous tenterons de comprendre quel est le modèle agricole d'aujourd'hui et quelles en sont ses caractéristiques et conséquences. Pour discuter de ce sujet, nous faisons appel à plusieurs étudiants et étudiantes qui incarneront des personnages liés à cette thématique.
Bonjour, je suis Joshua, biologiste spécialisé dans l'écotoxicité des produits phytosanitaires.
Bonjour, je suis Manon, j'ai 30 ans et j'incarnerai le rôle d'une agricultrice de maïs dans la région Occitanie, proche de Toulouse.
Bonjour, je suis Étienne et je suis sociologue et économiste affilié au laboratoire du CNRS.
Merci pour vos présentations. Pour débuter, nous allons faire un état des lieux du monde agricole. On sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens ont mis en place une politique agricole commune pour répondre aux problèmes de famine. Étienne, serait-il possible de nous expliquer en quoi consiste la PAC ?
Oui, bien sûr. La PAC, elle est adoptée en 1962. Elle va permettre d'associer les marchés européens entre eux dans l'objectif de stopper les guerres entre les pays européens, mais aussi de régler les problèmes de famine. Le but de la PAC, c'était de développer la taille des exploitations pour que l'Europe soit autonome, c'est-à-dire qu'elle soit en capacité de nourrir tous ses habitants. Donc cette transformation du monde agricole, elle a permis une augmentation de l'espérance de vie des Européens. Et durant cette période, l'agriculture a été le secteur économique qui a connu la plus forte amélioration de productivité du travail.
Et concrètement, aujourd'hui, comment se manifeste la PAC auprès des agriculteurs ?
Alors, pour expliquer brièvement, la politique agricole commune nous permet de nous développer. Elle se base sur deux postes de dépenses, les aides financières accordées aux agriculteurs et agricultrices, et elle participe aussi au développement des milieux ruraux.
Merci pour cet état des lieux. Donc, si je résume, cette PAC a permis d'assurer une autonomie alimentaire des pays européens et d'améliorer les conditions de travail pour les agriculteurs et agricultrices. Mais alors, quelles sont les raisons d'une crise du modèle agricole ?
Eh bien, malgré les bienfaits de la PAC à ses débuts et malgré tous ces renouvellements, aujourd'hui, cette politique, elle ne permet plus vraiment d'assurer une agriculture qui soit viable pour les agriculteurs et les agricultrices et respectueuse de l'environnement.
En effet, aujourd'hui, le monde agricole, il vit plusieurs crises. Je pense que la PAC, elle a considérablement changé les pratiques collectives et individuelles en agriculture. Elle a permis d'améliorer les conditions de travail, certes, mais elle s'est fait au détriment de l'environnement. Pour développer l'agriculture, cette politique elle a favorisé l'agrandissement de la taille des exploitations et des infrastructures. Ça passe aussi par la mécanisation, les innovations techniques, les innovations chimiques, comme l'entrée des produits phytosanitaires.
Et du coup, quelles vont être les conséquences de ces pratiques ?
Ces pratiques elles ont engendré plusieurs problèmes. Tout d'abord, on a l'utilisation des produits phytosanitaires qui a considérablement réduit le nombre d'espèces vivantes, notamment celui des insectes. Et les insectes, ils ont un rôle essentiel dans les sols. Ils consomment et relâchent certains nutriments qui sont bénéfiques à la croissance des cultures. La baisse du niveau d'insectes ainsi que la monoculture sur de longues décennies, tout ça, ça a entraîné un appauvrissement des sols.
Et quelles sont les conséquences de l'appauvrissement des sols pour l'agriculture ?
Cet appauvrissement des sols, il rend l'agriculture plus difficile, car les plantes ne parviennent plus à pousser dans un sol qui est épuisé. Ce phénomène, il pose la question sur la surface agricole utilisable en France, car elle est en légère baisse. Les pesticides, ils entraînent également des problèmes comme la pollution de l'eau, de l'air et des sols. Ces pollutions engendrent un risque de contamination toxique pour les êtres vivants à proximité des cultures, la faune, la flore et nous aussi les êtres humains. Ces pratiques, elles sont également très émettrices de gaz à effet de serre, ce qui montre les limites du système agricole dit conventionnel, notamment pour la construction, la fabrication, le ravitaillement des moyens de production.
Et du coup, les émissions de gaz à effet de serre vont avoir quel impact ?
Les gaz à effet de serre aggravent le dérèglement climatique. Ils ont pour conséquence des changements de climat et des conditions météorologiques extrêmes, telles que les sécheresses, les inondations et les tempêtes. Ils sont donc à limiter impérativement, mais l'agriculture engendrée par la PAC en produit énormément. Les émissions de gaz à effet de serre ont aussi un effet rétroactif, puisque les intempéries vont complexifier la production agricole.
Vous, Manon, en tant qu'agricultrice, que pensez-vous de ces pratiques ?
Tout d'abord, je pense qu'elles ont été nécessaires pour l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs et agricultrices. Pour ma part, j'essaie de réduire l'utilisation de pesticides, mais je ne peux pas tout arrêter parce que, par exemple, j'ai pas assez d'employés pour désherber toutes mes parcelles. Les gens ne se rendent pas compte des difficultés du métier, mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, de nombreux efforts sont menés pour l'environnement dans le domaine de l'agriculture. Nous tentons de plus en plus de faire évoluer nos pratiques.
Et est-ce qu'au cours de ces dernières années, il y a des normes environnementales qui se sont imposées ?
Oui, en effet, depuis 2013, la PAC elle a réformé ses politiques autour de l'axe du développement durable. Elle a mis en place de nombreuses exigences sur l'environnement. Il y a par exemple la mise en place des bonnes conditions agricoles et environnementales. C'est des règles qui ont pour but de limiter l'érosion des sols, la détérioration des habitats et de protéger la ressource en eau. La PAC elle a aussi mis en place les mesures agro-environnementales qui, elles, visent à maintenir la biodiversité des milieux.
Manon, vous avez mis ces règles en place dans votre exploitation ?
Oui, bien sûr, j'ai mis en place toutes les règles obligatoires. Cependant, il est difficile pour nous de rivaliser à l'international avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales que nous et donc pas les mêmes contraintes. En plus, la Commission européenne, elle a signé un accord de libre-échange entre l'Europe et la communauté économique des pays d'Amérique du Sud. Cet accord, il menace notre activité économique et agricole. Le respect des normes environnementales ainsi que la différence de salaire impactent les prix des produits. J'aimerais que l'État et l'Europe protègent davantage les conditions de travail des agriculteurs et agricultrices, car nous ne pouvons pas rivaliser sur le marché mondial.
Donc les normes environnementales imposées par la PAC entraînent des difficultés chez les agriculteurs et agricultrices, notamment des difficultés économiques. Mais est-ce que le système d'aide qui est mis en place, il ne permet pas de réguler ces problématiques ?
Je ne pense pas totalement. Pour moi, les aides de la PAC sont très inégalitaires. Pour ma part, je produis du maïs sur une surface de 100 hectares, ce qui me permet d'avoir un salaire correct. Par contre, mes parents, eux, ils étaient spécialisés dans la vigne. Ils disposaient seulement de 10 hectares, très peu d'aide, et donc ils avaient un revenu très faible. C'est pour ça que j'ai fait le choix de produire du maïs.
Oui, et il y a des chiffres qui le prouvent. En moyenne, on a à peu près 20% des exploitations qui reçoivent 80% des aides directes. Et ces exploitations, ce sont des grandes exploitations, elles représentent peu d'emplois. Donc on peut contester l'efficacité de la politique de soutien des revenus. Car pour avoir un revenu décent, les petites exploitations vont chercher à se moderniser et donc à s'agrandir. Et du coup, on a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui contractent des crédits pour construire de nouveaux bâtiments, acheter de nouvelles machines ou encore plus de semences. Mais dans cette course à la modernité, il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui ne parviennent pas à rembourser leurs crédits. Ils vont se trouver surendettés et ça engendre du stress qui peut les pousser vers une dépression par exemple.
Manon, vous avez été confrontée à des difficultés quant aux endettements ?
Oui, bien sûr, et cette pression n'est pas supportable. J'ai un ami agriculteur qui élève des vaches et il pensait mettre fin à ses jours s'il atteignait le cap des 150 000 euros d'endettement. C'est le seuil à partir duquel il devient impossible pour lui de rembourser sa dette. En plus de ça, aujourd'hui, certains agriculteurs vendent leurs produits à perte. Par exemple, cet ami agriculteur vendait beaucoup de lait à de grands industriels, mais à un prix trop faible. Il vendait son lait 34 centimes le litre, alors que pour avoir un SMIC à la fin du mois, il faudrait qu'il le vende 44 centimes. Vous trouvez ça normal, vous, que les personnes qui assurent la stabilité alimentaire ne puissent même pas se dégager un SMIC ?
Et comment cela se fait-il ?
En fait, c'est qu'il y a un rapport de force favorable aux industriels dans la production qui va de la fourche à la fourchette. Ces dernières années, la baisse du pouvoir d'achat a mis la pression aux industriels pour vendre des produits à des prix raisonnables. Mais les prix de certains secteurs, comme le lait, la viande ou le sucre, ont baissé pour favoriser la vente au plus grand nombre, en dépit de nos salaires.
On comprend mieux la difficulté des agriculteurs et agricultrices. Étienne, est-ce que vous avez une explication pour l'augmentation du taux de suicide chez les agriculteurs ?
En fait, les agriculteurs et les agricultrices se retrouvent confrontés à une surcharge de travail pour se faire une place sur le marché. Car il y a une forte concurrence, ils doivent donc augmenter leur rendement pour diminuer leur prix. En plus de ça, on a les travaux de Sylvie Brunel, qui est une économiste et géographe. Et ces travaux, ils mettent en lumière que leur mal-être, il est aussi dû aux accusations à leurs égards par les riverains et par certaines associations, qui les accusent d'être des pollueurs et des empoisonneurs. En 2021, le gouvernement français, il a reconnu que la catégorie socio-professionnelle où il y avait le plus de suicides, c'est celle de l'agriculture, avec plus de 500 suicides par an.
Merci pour toutes ces informations. Nous pouvons donc dire qu'il y a un lien entre la souffrance des agriculteurs et le système agricole dont ils sont dépendants. De plus, ce système pose d'autres problématiques. Aujourd'hui, la France est le 6e pays exportateur agricole dans le monde, mais elle n'est pas capable d'assurer l'autosuffisance alimentaire du pays. Comment cela se fait-il ?
Alors, historiquement, la France est un grand pays d'agriculture. et aujourd'hui elle pourrait être quasiment autosuffisante à 80%. Mais le modèle actuel, il est penché sur l'exportation et le profit. En 2021, la France, elle a exporté près de 70 milliards d'euros en matière agricole et agroalimentaire, et de l'autre côté, elle a importé près de 63 milliards d'euros de denrées alimentaires. Pour vous donner une idée, on a à peu près 28% des légumes et 71% des fruits qui sont consommés en France qui sont importés. Donc c'est assez hallucinant.
Et d'ailleurs, à ce propos, je souhaiterais ajouter que l'année dernière, la Chambre d'agriculture d'Occitanie a publié les dossiers d'agriscopie sur les grandes cultures. Ces dossiers montrent qu'en 2020, la région Occitanie a exporté plus de 2,3 millions de tonnes de céréales oléagineux et protéagineux, qui sont destinés à être exportés principalement vers l'Espagne.
Mais en plus, il n'y a pas seulement la population à nourrir, mais également les animaux d'élevage, non ?
Tout à fait. Il faut savoir qu'un grand nombre de terres agricoles en France sont destinées à nourrir le bétail. En 2019, 47% des surfaces agricoles utilisées étaient destinées à la culture fourragère, donc aux animaux. Le problème ici, c'est que ces cultures sont faites sur des terres arables sur lesquelles pourraient être cultivés des légumes, des céréales, qui pourraient être destinées à l'alimentation humaine. Moi, je cultive du maïs pour l'exportation et pour le bétail. Je suis consciente que ce type de culture est controversé, surtout d'un point de vue environnemental. Mais je n'ai pas les moyens de changer tout le fonctionnement de mon exploitation.
Merci pour tous ces constats qui nous permettent de comprendre un peu mieux pourquoi le monde agricole est en crise économique, sociale et environnementale. Mais aussi à saisir les difficultés des agriculteurs et agricultrices qui sont aujourd'hui dépendants d'un système qui les pousse à produire de manière intensive. Nous allons faire une petite pause musicale avec l'hymne de nos campagnes de Trio.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
On se retrouve maintenant pour parler d'une autre problématique rencontrée par les agriculteurs et agricultrices, c'est la question de la propriété privée. on observe une dépossession des agriculteurs et agricultrices de leurs moyens de production avec une privatisation des terres, des semences et de l'eau. Tout d'abord, si on s'intéresse aux terres, est-ce que, Étienne, vous pouvez nous expliquer comment est répartie la surface agricole actuellement en France ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a 85% de la surface agricole française, donc la plus grande partie, qui est partagée par des petits propriétaires privés, et pour la plupart, ce ne sont pas des agriculteurs. Il y a plus de 4 millions de petits propriétaires privés pour presque 500 000 agriculteurs et agricultrices. Ce qui fait qu'ils ont en moyenne 14 propriétaires, et ça cause des difficultés.
Oui, c'est vrai. Cette situation crée un grand déséquilibre. Personnellement, je comprends tout à fait car j'ai 12 propriétaires différents pour mes cultures et ce n'est vraiment pas facile à gérer. Donc, il faut que je sois très productive pour pouvoir payer les terres sur lesquelles je cultive.
Ensuite, on a les entités publiques qui détiennent 5% de la surface agricole française, mais ça résulte souvent du transfert des communs fonciers aux communes. Et puis enfin, depuis 30 ans, il y a un nouveau phénomène qui est en pleine expansion. C'est l'accaparement des terres par des sociétés agricoles financières qui contrôlent aujourd'hui à peu près 7,5% de la surface agricole utile.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce nouveau phénomène ?
Alors, l'accaparement des terres, c'est des investisseurs qui vont acquérir massivement des terres agricoles et qui vont soit cultiver la terre avec des méthodes non agroécologiques, soit l'utiliser à des fins de spéculation ou de contrôle des ressources. Et puis, ça ne se fait pas toujours dans la légalité. C'est un phénomène qui est du coup assez récent, mais ça correspond quand même à une ferme sur 10 aujourd'hui, et ça pourrait continuer à s'accroître.
Qui sont les acteurs de cet accaparement ?
On retrouve deux types d'accapareurs. Il y a des agri-managers, c'est des agriculteurs, agricultrices qui contrôlent plusieurs centaines, voire des milliers d'hectares, et leur métier va plutôt se rapprocher du management d'entreprise que du travail de la terre. Ensuite, il y a des entreprises et multinationales qui monopolisent des cultures, qui ont favorisé la monoculture et engendrer des pollutions. Ces sociétés, elles ont une puissance d'achat qui est plus élevée que les agriculteurs et agricultrices, grâce à l'apport des capitaux extérieurs. Ça leur procure une position dominante sur le marché, qui vont leur permettre de prendre plus de fermes et acquérir plus de terres.
Et quelles sont les conséquences de ce nouveau phénomène ?
Alors, ce nouveau phénomène, ça engendre des grandes exploitations qui sont souvent néfastes pour les écosystèmes et pour l'emploi. Plus les exploitations s'agrandissent et plus leurs prix sont élevés. Du coup, ça favorise l'accès à la terre par les agro-industriels et les autres investisseurs. Et ça va faire barrage à l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices. Ça engendre aussi une destruction massive des emplois car les grandes exploitations industrielles, elles nécessitent de moins de main-d'œuvre et ça entraîne une précarisation du travail. Et puis l'agrandissement des exploitations, ça va de pair avec des cultures qui ont besoin d'intrants chimiques et une mécanisation. Et c'est donc incompatible avec une agroécologie.
Merci pour toutes ces informations. Donc nous pouvons dire que les agriculteurs et agricultrices sont dépossédés de leurs terres, mais ils souffrent aussi d'une privatisation des végétaux. Pourtant, les végétaux ont toujours été considérés comme des biens communs dans l'ensemble de l'humanité, mais depuis le XXe siècle, il y a une privatisation des ressources génétiques. Par exemple, en un siècle, les semences sont passées du statut plus ou moins commun à celui de bien privé marchand. Manon, pouvez-vous définir qu'est-ce qu'une semence et comment est-ce que vous vous approvisionnez ?
En fait, la semence, c'est la graine qui est apte à former une plante après l'avoir semée ou enfouie. Dans le passé, les paysans gardaient la meilleure partie de leur récolte pour les semis de l'année suivante, ou ils les échangeaient entre eux. Mais aujourd'hui, c'est bien différent. On achète nos semences à de grandes entreprises privées. Ces semences sont appelées des variétés hybrides. C'est le résultat d'un croisement entre deux espèces différentes. C'est un travail de sélection qui a pour but d'obtenir des plantes souvent plus productives et plus résistantes aux maladies. Mais le problème, c'est que si on les replante, les gènes se mélangent et la plante n'est pas la même. Ceci nous oblige à en racheter chaque année. Les semences représentent donc un poste de dépense très important pour nous.
Oui, depuis le XXe siècle, avec l'industrialisation et l'approfondissement de la division sociale du travail, les tâches ont été séparées pour pouvoir faire en grand et de manière plus efficace. Du coup, le métier de sélectionneur est devenu plus complexe avec l'évolution des sciences agronomiques et biologiques. Et ça a débouché sur la sélection généalogique. Et aujourd'hui, la production des semences, elle est principalement assurée par des semenciers, c'est-à-dire des entreprises qui sont spécialisées. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 8000 variétés de semences. Et pour la plupart, ce sont des hybrides, qui sont la propriété de grands groupes. Et il se passe la même chose à l'échelle planétaire. Dans le monde, on a 2/3 des semences qui appartiennent à 4 grandes multinationales. Bayer Monsanto, Dow DuPont, Synergia et Limagrain.
Et donc aujourd'hui en France, quelles sont les conditions pour qu'une semence soit cultivée et commercialisée ?
Pour qu'une semence soit cultivée et commercialisée, il faut qu'elle soit certifiée et contrôlée. Pour la grande majorité des espèces agricoles et potagères, la variété d'une semence elle doit être inscrite soit au catalogue officiel des espèces et variétés végétales nationales, soit au catalogue communautaire pour être commercialisée.
Et pourquoi cela ?
Cette législation, elle vise à encadrer la production des semences commerciales pour l'utilisateur. Mais les critères d'inscription au catalogue renvoient à un mode de production industriel. Et donc on peut penser que cette réglementation conduit à sélectionner essentiellement des semences adaptées aux pratiques de l'agriculture industrielle. Le catalogue va contribuer à imposer un système agraire unique et il ne correspond pas aux besoins d'une agriculture moins intensive.
Merci pour ces informations sur la privatisation des semences et des espèces végétales qui, on peut dire, favorise une dépendance des agriculteurs à un modèle productiviste. Aujourd'hui, on a aussi une autre ressource commune qui est sous tension, c'est l'eau. L'eau, c'est une denrée nécessaire pour l'agriculture. Cependant, il y en a de moins en moins. Vous, en tant que biologiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec cette ressource ?
Oui, en effet, la production agricole dépend fortement de l'eau. Elle est d'ailleurs la première activité consommatrice d'eau en France, avec 57% de la consommation totale en eau. L'agriculture, c'est aussi un des plus gros pollueurs de cette ressource à cause des produits chimiques qui sont utilisés lors des plantations et qui vont s'infiltrer dans la terre, les nappes et in fine dans les rivières. Et aujourd'hui, l'agriculture se retrouve exposée à un risque qui est lié à l'eau.
Et comment cela se fait-il que cette ressource devienne de plus en plus rare ?
Avec le changement climatique, la variabilité des précipitations et des approvisionnements en eau de surface va s'accentuer, ce qui va réduire la couverture neigeuse et la superficie des glaciers, et ça aura donc une incidence sur les besoins en eau des cultures.
Manon, vous avez rencontré des difficultés quant à cette ressource ?
Moi, je fais principalement du maïs. Donc, j'ai conscience que l'on a besoin d'une grande quantité d'eau pour irriguer nos champs. Et justement, cet été, avec la sécheresse, on a eu des restrictions en eau. On avait le droit d'arroser seulement un jour sur deux. Et on a perdu une grande partie de nos cultures. Du coup, on espère vraiment que de nouvelles solutions techniques verront le jour d'ici quelques années, car c'est impossible de tenir comme ça.
Donc l'eau, c'est une ressource qui est aujourd'hui essentielle pour les agriculteurs et agricultrices. Cependant, on observe une privatisation de ce bien commun et on en entend également parler dans l'actualité, notamment au travers des projets de méga-bassines. Est-ce que Joshua, vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces projets ?
Les méga-bassines, ce sont des gigantesques ouvrages de stockage d'eau destinés à répondre aux besoins de l'agro-industrie. Elles sont remplies par pompage de la nappe phréatique, en fait, et le principe est de pomper en hiver quand la nappe est la plus haute pour l'utiliser cette eau en été. Cependant, le pompage il a une incidence sur les débits des cours d'eau qui sont eux-mêmes alimentés par la nappe.
Quelles vont être les conséquences sociales de ces projets ?
Alors ces projets, ils ont donc déjà des conséquences négatives sur l'environnement, mais ils posent aussi des problèmes pour les agriculteurs et agricultrices qui peuvent être dépossédés de cette ressource. Certains irrigants, notamment des maraîchers, des maraîchères, ne seront pas raccordés à ces ouvrages et ils craignent donc de voir les nappes s'assécher et la ressource disponible s'amenuiser. Il y a donc une privatisation d'un bien commun par une poignée d'agriculteurs et agricultrices. Et donc ce système, il favoriserait l'agriculture intensive.
Les agriculteurs et agricultrices sont dépossédés de leurs moyens de production et cela entraîne des difficultés au sein de leur travail. Pour finir, on peut se demander comment faire pour sortir de cette crise. Pensez-vous qu'un changement de modèle est-il possible ?
Selon moi, il est urgent de changer de modèle agricole. En tant qu'agricultrice, je suis volontaire pour changer de modèle, mais nous avons besoin d'être soutenus et accompagnés par les instances publiques et privées.
En effet, je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir le système agricole français et européen, et qu'il faut que les politiques publiques soutiennent la multiplication des fermes agroécologiques sur les territoires. Dans moins de 10 ans, on a la moitié des agriculteurs et agricultrices actuels qui seront en âge de partir à la retraite. C'est le moment de revaloriser les métiers agricoles qui doivent cesser de rimer avec précarité et isolement. Ils devraient plutôt attirer une diversité de profils avec des personnes non issues du milieu agricole. Dans ce contexte, je pense qu'il est aussi nécessaire d'assurer la transmission des fermes comme un levier de transition. Il faut sensibiliser, accompagner les agriculteurs et agricultrices cédants et les repreneurs et repreneuses pour concrétiser des projets qui soient durables et vivables, et s'assurer qu'aucune ferme à transmettre ne disparaisse. Et je pense aussi que le soutien à une diversité de projets ne sera possible que si les instances de décision et de suivi au niveau national et régional s'ouvrent aux organisations citoyennes et paysannes et à la société civile.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il me semble aussi important de revoir le système pour aller vers une agriculture plus vivante et plus durable. Selon moi, il est nécessaire de produire sur des exploitations qui sont plus petites, plus diversifiées et plus sobres. Et il faut que les productions correspondent davantage aux besoins alimentaires de leur territoire. Je pense que de nouveaux critères doivent être appliqués à l'octroi de financement public pour permettre la diversification des productions, l'autonomisation des fermes, le développement du pâturage. Mais je pense que ça doit également s'accompagner d'un soutien à l'élevage paysan, à la relocalisation des productions, au soutien à l'agriculture biologique, mais aussi envisager la sortie à la dépendance aux pesticides et aux engrais de synthèse.
Merci à vous pour nous avoir éclairé sur ce sujet assez complexe qu'est l'agriculture. Avant de finir, est-ce que vous avez des ouvrages ou des documentaires à recommander pour nos auditeurs et auditrices s'ils veulent en apprendre davantage sur ce sujet?
Oui, bien sûr. Personnellement, j'aimerais recommander le film de Guillaume Canet, Au nom de la terre. J'ai trouvé qu'il permet de retracer les conditions de vie et de travail des agriculteurs, et notamment, la pression que nous rencontrons pour développer des exploitations économiquement viables.
Si la privatisation des terres agricoles vous intéresse, je vous conseille le livre de Lucille Leclerc, Hold Up sur la Terre, qui permet de mieux comprendre le phénomène d'accaparement.
Pour nos auditeurs et auditrices, je conseillerais bien évidemment le dernier rapport du GIEC, notamment le volet pour les décideurs politiques, qui est en réalité un résumé de tout ce travail. Et sinon, je conseillerais également un documentaire intitulé « Tu nourriras le monde » produit par Parole de Paysans. C'est un documentaire qui donne la parole aux céréaliers pour qu'ils nous expliquent comment on en est arrivé là, qu'ils nous racontent leur histoire, in fine notre histoire, celle de nos campagnes et de nos paysages.
Nous espérons que ce podcast vous a plu. C'est désormais la fin de l'émission Vers de Terre, l'émission des étudiants et étudiantes du Master Politique Environnementale et Pratique Sociale. Un grand merci aux participants et participantes, ainsi qu'à Jacques Laverne pour nous avoir offert l'opportunité de faire cette émission, et à Tiffaine à la Technique. Et enfin, un grand merci à nos professeurs, Geoffrey Carrère et Christelle Manifet. On vous rappelle également que l'émission sera disponible sur le site Esprit Occitanie. Au revoir et bonne journée à tous et à toutes. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be.